Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, en version hors série ici, pour partager avec vous chaque semaine, dans leur intégralité, des entretiens avec celles et ceux qui font l'actualité, des grands témoins. Dans cet épisode, je vous propose une rencontre avec David Hallyday. En 2002, Johnny Hallyday se remettait au travail après le triomphe de son album 100% composé par David, et il avait demandé à son fils de lui écrire d'autres chansons. David Hallyday avait composé notamment une chanson intitulée « Le plus heureux des hommes ». Le projet de cette nouvelle collaboration père-fils n'a finalement pas vu le jour. 21 ans sont passés et David Hallyday a enregistré cette chanson, restée inédite jusqu'ici, un titre qu'on retrouvera dans son prochain album attendu le 16 juin. David Hallyday nous raconte comment il a retrouvé cette chanson et se confie comme rarement sur sa relation musicale avec Johnny, sur ses souvenirs de gamin, sur sa complicité aujourd'hui avec sa sœur Laura. David Hallyday qu'on retrouvera prochainement dans un documentaire sur sa vie, diffusée le 3 avril sur Canal Plus Docs. David Hallyday en tête à tête avec Steven Bellery pour RTL.
Bonjour David Hallyday.
Bonjour.
Vous êtes de retour avec le premier single de votre prochain album attendu avant l'été. La chanson s'intitule « Le plus heureux des hommes ». Vous signez la musique et le texte est du duo Lionel Florence et Patrice Guirao. Cette chanson, elle a une histoire. Alors, elle n'est pas si récente que ça, cette chanson. Et vous ne l'aviez pas composée pour vous, à l'origine.
C'est ça, oui. Elle a une histoire assez rigolote. C'est-à-dire que quand tu es compositeur et que tu composes tout le temps, il y a des chansons qui passent à la trappe. C'est pas le cas de cette chanson parce que celle-là, elle était destinée à être sur un album et elle était en sommeil, on va dire, sur un disque dur que j'ai retrouvé il y a 8-9 mois lors d'un déménagement et il y avait un carton marqué David Studio et comme j'avais au moins 15 vies un petit peu dans mon grenier, il faut que je fasse un tri, il faut que je m'y mette. Donc j'ai trouvé ces disques durs, les 5 chansons. C'est des chansons qui étaient destinées à mon père en 2002. Après 100%, il m'avait demandé de refaire un album pour lui. Je m'étais mis à travailler et je me suis arrêté finalement à 5 chansons parce que j'avais pas envie de remettre en jeu, on va dire, la référence de 100%. J'avais envie qu'il n'existe que ça, en fait, entre lui et moi. Je l'avais appelé pour lui expliquer. Il était un peu déçu. Et parmi ces chansons, il y en avait deux qui étaient vraiment très fortes. Et j'ai décidé d'en faire vivre une pour être en inédit sur mon album. Parce qu'en fait, je fais un album en fait, où j'ai repris des anciens titres. J'ai tout réenregistré, rechanté. C'est les 2.0, on va dire, de ces chansons-là. Alors, il y a Tu m'as pas laissé le temps, il y a 100%, il y a Mirador. Il y a deux inédits, dont celui-là.
Vous l'aviez oublié, cette chanson, vraiment? Elle était comme enfouie dans votre cœur?
Bah oui, parce que j'écris tellement de titres, en fait, c'est facile d'en égarer certaines. Moi, là, j'ai un peu oublié. Et puis j'écris d'autres choses, et puis la vie continue. Je suis très content qu'elle puisse exister et vivre.
Il ne l'avait même pas maquetté, Johnny.
C'est moi qui l'avais maquetté, mais c'était plus orchestral. Ça suivait un petit peu la lignée de 100%. Bah, aujourd'hui, il fallait réenregistrer, la mettre au goût du jour, on va dire. Voilà, mettre un texte, il n'y avait pas de texte dessus. Il y avait un thème, mais il n'y avait pas de texte.
C'était quoi ce thème?
Bah, c'est l'histoire d'un homme qui perd la foi, qui ne croit plus en rien, plus en lui-même, plus en l'amour, en l'amitié, et qui, par le biais d'une personne, avec le temps, arrive à retrouver, comme disait un certain artiste, l'envie d'aimer et de revivre tout simplement.
On regarde un peu dans le rétroviseur, c'est vrai que l'album 100% a été un immense succès à l'époque, en 99, plus d'un million d'exemplaires vendus. C'est un disque qui a été fait à l'instinct en fait.
J'avais accepté de le faire, mais j'étais un petit peu nerveux au début, parce que bon, il y a plein de super bons compositeurs, moi j'habitais aux États-Unis encore. Why me? Je voulais pas échouer. Quand j'ai accepté, j'ai dit écoute, moi je veux bien le faire, mais je pense que je ferai du bon boulot si tu me laisses carte blanche sur les thèmes, la manière dont je vois musicalement la chose quoi. J'ai commencé à composer et je m'étais inspiré un petit peu sur ce que j'aimais de lui le plus, c'est-à-dire les années 70, toutes ces grandes chansons à thème. Et donc, je vais essayer de reproduire un petit peu ce que j'aimais de toi quand j'étais petit, en fait. Et je suis parti sur cette base-là, et puis j'ai déroulé les titres. J'ai toujours que c'est l'album le plus facile que j'ai eu à faire, quelque part.
Vraiment?
Ouais, parce que j'avais vraiment une idée en tête et une ligne directrice. Et voilà, et c'était au niveau émotionnel, en fait. J'ai suivi cette émotion, et quand on a l'émotion de départ, de faire les choses sans réfléchir, en fait, de le faire à l'instinct, bah, comme vous venez de le dire, sans réfléchir.
Est-ce que ça reste, avec le recul, l'une de vos plus belles expériences musicales et professionnelles?
Ah, ça fait partie, oui, oui, oui. Bien sûr, parce qu'on se voyait pas souvent, et puis c'est vrai que ça nous a permis, cet album, à passer un long moment ensemble, et ça, c'était génial. On a passé des moments intimes tous les deux, tout ce qui s'est passé en dehors de la musique aussi, quand je lui faisais écouter les titres, et qu'on se marrait, qu'on déconnait.
Cet album a changé votre relation d'une certaine manière?
On s'est rapprochés, c'est grâce à ce projet-là. Forcément, au-delà de la musique, il y a, on va dire, un marqueur important de vie.
Avant de composer pour lui, vous aviez joué pour Johnny. On revoit cette scène aussi dans le documentaire. Vous n'aviez que 13 ans quand vous êtes monté sur scène pour la première fois aux côtés de votre père. C'était au Pavillon de Paris, 26 novembre 1979. Vous êtes derrière la batterie Vous gardez quel souvenir de ce moment ?
Souvenir hyper fort, en fait. C'est la première expérience scénique devant autant de gens. J'avais à peine répété ce titre. Il s'appelait Rien que 8 jours. Et donc, j'étais un peu terrorisé. La batterie était trop grande pour moi. C'était un peu à l'arrache. D'un point de vue émotionnel, c'était compliqué à gérer. Mais après, quand je suis sorti, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, mais finalement, c'est génial de la scène. J'aimerais faire ça, moi aussi, un jour et tout. Et donc, ça a été un déclencheur pour moi, quelque part. Et quand j'ai commencé à faire mes groupes aux États-Unis et tout, à jouer, c'est vrai que ce moment-là a toujours été dans mon esprit. Il m'a construit un petit peu aussi.
Est-ce que la musique était présente à la maison quand vous viviez avec votre père ? Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de transmission, de moments musicaux tous les deux ou pas tant que ça ? Quand il était à la maison, il n'était pas musicien ?
En fait, pas tant que ça, parce qu'il était souvent parti, hein, souvent en tournée, tout ça. Donc, il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat, quand j'étais petit, pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Ouais. Et oui, il y avait des moments rigolos comme ça. Enfin, ça amusait moins ma mère, je pense, mais moi, ça m'amusait beaucoup. Lui, ça avait l'air de l'amuser aussi. À partir du moment où j'ai eu ma première batterie, je jouais, je mettais les disques, la musique que j'aimais aussi, beaucoup de Led Zepp, et puis je jouais dessus comme un malade. Dès que je rentrais de l'école, je m'entraînais dessus, je répétais 15 fois les même truc. Voilà, j'ai commencé à faire de la musique dans ma chambre, petit, sans arrêt, en écoutant plein de choses.
Dans le film, votre maman, Sylvie Vartan, raconte que c'est vraiment la batterie qui a été l'instrument de votre vie, cette batterie offerte un soir de Noël.
C'est toujours ma passion, hein. C'est ce que j'ai joué le plus, en fait. Donc pour moi, cette batterie, c'était vraiment une aubaine, cette première batterie, pas pour les autres, mais pour moi, c'était... On m'avait mis loin, le plus loin possible, et je jouais tout le temps, en fait.
Et la guitare, c'est votre beau-père, d'une certaine manière, qui vous
influence. Ah ouais, moi, j'avais pas spécialement envie de jouer de la guitare. Ouais. Là-bas, on a son permis à 16 ans aux États-Unis et j'avais des posters de Ford Mustang. Quand tu seras en âge et tout, si tu apprends à jouer de la guitare, t'offrirai une Mustang. Je fais quoi ? Je dis, c'est une blague. Il fait non. Donc j'ai appris à jouer de la guitare très vite. Qui l'aurait pas fait ? Quand j'ai réussi à jouer le solo de Johnny B. Goode, à gratouiller, on va dire, il m'a offert le porte-clés de la voiture. Et ça m'a fait marrer.
David Hallyday, un documentaire produit par Paul Belmondo vous est consacré également, réalisé par Éric Périssé. Il sera diffusé sur Canal Plus Docs le 3 avril, disponible sur MyCanal. Pourquoi avoir accepté de vous raconter de la sorte ?
Je me dis, 36 ans de carrière, il y a peut-être des choses à raconter. Maintenant, je vois plein d'artistes qui ont 3-4 ans de carrière, qui font des docus. Je me suis dit, peut-être que je peux en faire un. C'est pas illégitime. Je pense qu'on me connaît pas bien quelque part. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé ma carrière et que tu m'as pas laissé le temps.
Et cette phrase très importante dans le film que dit votre maman Sylvie Vartan, David avait besoin d'être à l'écart des turbulences de nos vies. Vous louez dans ce film votre éducation, la manière dont votre mère vous a éduqué.
Et ma grand-mère, oui, parce que j'étais élevé par des femmes fortes. Elles m'ont inculqué des valeurs. C'est vrai, j'ai de la chance d'avoir été éduqué par elles. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Moi, ce qui se passe chez moi reste chez moi, comme on dit.
On parle beaucoup aussi du manque dans ce film. Parler à cœur ouvert du manque de votre papa. J'ai un souvenir épisodique de mon père, pas toujours en bon état. C'est comme ça. Vous arrivez à en parler plus facilement aujourd'hui du manque de votre père à un certain moment de votre vie.
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie d'une existence, de vie. Puis en plus de ça, quand on rajoute, on va dire, la célébrité et puis l'espèce de frénésie autour, c'est compliqué pour les enfants qui sont là et qui ne voient pas trop leur père. En même temps, quelque part, c'est formateur aussi. Le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Mais les manques font toujours de bonnes chansons.
Célébré en décembre dernier les 5 ans de la disparition de Johnny. Comment vous vivez aujourd'hui son absence ?
Des fois ça va, et puis des fois ça va moins, et puis la vie continue.
Vous diriez que votre deuil est toujours en cours ?
Oui, il y a des choses que je n'ai pas encore bien digérées, mais bon, c'est comme ça.
Vous arrivez à réécouter sa musique aujourd'hui ?
Oui.
Donc quand vous entendez une de ses chansons, c'est avec plaisir aujourd'hui ?
Ça dépend de la chanson.
Pourquoi il y en a qui sont plus fortes en émotion ou...
Ah oui, Que je t'aime, Laura, des chansons qui me rappellent des souvenirs. Quoi.
Est-ce que David, vous êtes allé vous recueillir sur sa tombe à Saint-Barth depuis sa disparition ?
Ouais, ça, je ne veux pas parler de ça, c'est dans le domaine privé.
Laura Smet, votre demi-sœur, a posté sur Instagram une très belle photo de vous il y a quelques jours. On y devine une jolie complicité, on se souvient qu'elle avait réalisé le clip de Ma dernière lettre.
Ouais.
On a l'impression, y compris dans le documentaire, que votre relation est de plus en plus belle, de plus en plus forte.
On a une petite différence d'âge, donc on s'est rencontrés à mi-chemin, on va dire, avec Laura. On a chanté ensemble sur un titre qui s'appelle On se fait peur. Je trouve qu'on se ressemble pas mal, d'une certaine manière, donc... On a appris à se connaître, on va dire, et à s'aimer quelque part. Parce que quand tu grandis pas avec quelqu'un, même si c'est ta sœur, on s'entend super bien, on a une très belle relation.
Elle révèle, Laura, dans le documentaire, que c'est vraiment en 2010, quand votre papa est hospitalisé, que pour elle, votre relation s'est véritablement nouée.
Oui, forcément, à travers des choses difficiles, on renoue avec sa famille, toute sa famille, on va dire. Elle est plus jeune que moi, un position de grand frère fait que... Mais oui, on s'est retrouvés ensemble à ce moment-là et on est restés très proches depuis, ouais.
Une grande exposition arrive à la fin de l'année, finalement, en décembre, Porte de Versailles à Paris, consacrée à votre papa, Johnny.
Non.
Vous pourriez aller la visiter ?
Vous savez, moi, tous les souvenirs, je les ai dans mon cœur et pour voir quoi, moi, j'ai tout dans ma tête. Par contre, je trouve ça formidable pour les gens, pour ses fans et pour les gens qui attendent ça. Moi, je connais bien sa vie.
Merci, David.
Merci à vous.
Entretien réalisé pour RTL par Steven Bellery. Le plus heureux des hommes est la nouvelle chanson de David Hallyday. C'est le premier extrait de son nouvel album à paraître le 16 juin, tourné dès l'an prochain. Et le documentaire David Hallyday sera diffusé lundi 3 avril sur Canal+ Docs, puis disponible sur MyCanal. Si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site RTL.fr.